Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dôme. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il a tiré sur lui. Le gardien est tombé. Ferdinand remonte à l'appartement et se sauve en courant. Il court dans les rues à peur d'être pris. Le père apprend dans la soirée la tentative du vol et la mort de son gardien. Il court à la banque avec la police et trouve à terre une chaînette qui est la chaînette qui appartient, qui retient la médaille de baptême de Ferdinand. Le père la prend, il est furieux. Père, une fois rentré chez lui, à la chambre de Ferdinand, qui est rentré, fonce sur lui et lui donne une correction. Salaud, tu mériterais que je te dénonce. Fini. Je ne le ferai pas pour la dignité de la famille. Mais tu vas t'en aller loin. Hein? La mère accourt dans la chambre de Ferdinand parce qu'elle a entendu les cris. Elle demande à son mari, que se passe-t-il? Il lui dit, salopard, a cambriolé la banque et a tué mon gardien. Elle lui demande, que va-t-on faire? Il lui dit, je ne peux pas le dénoncer à la police. Mais le mettre à la porte. Sa femme ne veut pas que Ferdinand parte, lui dit. C'est une erreur de jeunesse. Il faut pas lui en vouloir. Il faut lui pardonner. Son mari lui dit. Non, il quittera la famille. Ferdinand va vivre à l'hôtel. La peur le rend malade. Il demande au gardien de l'hôtel de prévenir sa mère. Le gardien prévient la mère. Elle va le voir, le ramène chez elle. Lorsque le père revient de son travail, il retrouve sa femme au salon et est obligé de le lui dire. Elle le lui dit. « J'ai ramené Ferdinand parce qu'il est malade. » Son mari, furieux, lui dit. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Elle lui dit. « Si l'on apprend que notre fils vit dans la misère, ça fera mauvais effet. » Il ouvre ses épaules et laisse faire. Maxime, lui, reste en dehors de tout ça. Il fait tout pour ne pas être impliqué. Son père est très fier de lui. Il dit à sa femme, « C'est lui qui va nous aider. » Elle lui dit, en riant, « C'est un sauvage !» Il lui dit, « Tu es injuste. Il est plus cultivé que son minable de frère qui est un bon à rien. Et lui ne cherche pas à nous voler, ni à tuer nos employés. » Elle lui répond, « C'est une erreur de jeunesse. » Maxime, à midi, au lieu de rentrer chez ses parents, parce que c'est un peu loin pour y aller, décide de déjeuner de charcuterie et d'un fruit. Il mangera mieux le soir. Il va manger dans un endroit tranquille qu'il a trouvé, le jardin des hauteurs de Fourvière. Il aime ce jardin qui est calme et beau. Là, assis sur un banc, après avoir mangé, il peut réviser ses cours tranquillement. Un jour, il voit passer une charmante jeune fille. Elle est grande, mince, blonde, semble douce, habillée d'une robe beige. Lui la voit très belle et douce. Elle aussi porte des livres à la main. C'est la première fois qu'il est attiré par une jeune fille. Il la voit passer plusieurs fois, mais n'ose pas lui parler. Un jour, ils sont pris tous les deux par un orage violent. Ils vont vite s'abriter dans une baraque en ruine qui se trouve dans le parc. Mouillés, ils se regardent et rient. Il lui tend un mouchoir pour qu'elle puisse s'éponger le visage. Elle lui dit « Merci, monsieur ». Elle s'essuie. L'orage est fini, il s'en retourne. Il lui demande, tout en marchant, « Que faites-vous comme études ?» Elle lui répond, « Je suis encore lycéenne. » Elle lui a répondu parce qu'elle le trouve gentil, sympathique et beau. Il marche dans le parc. Le parc, tout en parlant. Elle lui dit « Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. » Elle sourit et lui dit « Vous pouvez m'appeler Rose ?» Et il lui dit « Et moi, Maxime. » Il se sourit et se sépare. Le lendemain, dans le parc, lorsqu'elle se passe près de lui, elle lui dit « Bonjour, Maxime. » Maxime lui dit « Bonjour, Rose. » Et ils marchent ensemble, parlent de leur étude. Elle parle aussi de son amour qu'elle a pour son père, qui est très doux et ferait n'importe quoi pour elle. Lui, lui parle de son père, qui est autoritaire, et de sa mère, qui est injuste pour lui. Son frère, lui, ton frère, il fait des bêtises. Lui, il aimerait quitter tout ça. Il a vécu une aventure inoubliable, ou plutôt des aventures. Il parle de David. Cette rencontre dans la ville et leur voyage en cachette, l'Afrique, la vie dure, l'esclavage et la montagne enneigée. Là, elle lui dit, vous avez dû rêver. Il lui répond, non, je vous assure. Je retrouve souvent dans le parc, il pense constamment à elle. Il décide, c'est de sortir le soir, en début de soirée, parce qu'elle dit que son père n'aimerait pas qu'elle sorte le soir. Ils se voient à la sortie des cours, vont à des concerts en début de soirée, marchent le long des quais de Sceaux. parc de la Tête d'Or. Il dit qu'il est mieux le jardin des hauteurs. C'est plus sauvage. De temps en temps, il invite au restaurant. Plus le temps passe et plus il aime vraiment. Il aimerait la prendre dans ses bras, mais il la respecte. Son amour ne le trouve pas pour ses écours. Bien au contraire, il veut lui prouver qu'il est bon sujet. Un jour, il s'enhardit, veut savoir, alors il lui demande « Qu'est-ce que vous aimez, Rose ?» Elle lui dit timidement Je vous aime, Maxime. J'ai peur de l'amour et ne veux me donner que dans le mariage. Puis elle est gênée et lui dit : J'ai quelque chose à vous dire d'important. Mon père n'a pas le même nom que moi. Il lui dit : Je comprends. Ça n'a pas d'importance. Quel est le nom de votre père ? Elle lui dit, ce ne serait pas correct de vous le dire. Il lui dit, moi mon père c'est Lafarge. Elle lui dit, il peut y avoir plusieurs personnes qui s'appellent pareil. Il lui demande, que fait votre père ? Elle lui dit, il est dans les affaires. Je ne sais pas. Il est toujours très pris, lui dit mon père aussi. Moi aussi je vous aime beaucoup. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimez et vous m'avez dit que vous m'avez aimé. Que vous m'aimiez, c'est extraordinaire. Moi aussi je vous aime, je vous le jure. Un jour, elle lui dit, puisque nous sortons souvent ensemble, mon père veut vous connaître. Il est gêné, mais que faire? Que lui dire? Oui, bien sûr, elle lui dit. Il vous donne rendez-vous samedi soir à 19h. Elle lui donne l'adresse, Brunet. Et le samedi à 19h30, il y va gîner.
Oh là là, quelle soirée en perspective! Et depuis que je suis grand, il a commencé à dire cool. Et je garde, je m'abuse. Mais je pense qu'il n'y a pas de rapport.
C'est un petit immeuble de 3 étages cossu. J'irai voir quelque chose. Il dit, non merci. Il est gêné, de la voir ici. L'appartement est propre. Les meubles sont du 19e siècle, très bonne qualité. Le père arrive. Elle accourt à son devant. Et Mathilde voit arriver avec elle son père. Ils sont tous deux gênés. Le père dit à son fils,
« Je veux vous parler seul. »
Rose se retire. Le père demande,
« Que fais-tu là ?»
Maxime gêné lui dit, « J'ai rencontré cette jeune fille par hasard. Nous voyons souvent. Je l'aime. Je ne savais pas que tu étais. » Son père lui dit,
« Il faut plus que tu la revoies. C'est ma fille. Il y a inceste. »
Il lui demande,
« Aussi, tu as fait quelque chose avec elle ?»
Maxime lui répond, « Non, père, je vous le jure. » Mathilde est effondrée parce qu'il l'aime vraiment. Le père lui dit,
ne dis rien. Ni à elle, ni à ma femme.
Mathilde lui dit, je vous le promets. Son père lui dit,
je comprends ce grand sacrifice, mais c'est indispensable.
Mathilde se dit que l'amour caché n'amène que des malheurs. Il dit à son père, eh bien, je vous laisse.
Et il quitte son père. Il retrouve dans le couloir Rose, lui dit,
je vous quitte. Au revoir, mademoiselle. Elle lui dit, vous nous quittez déjà? Il lui dit, oui. Elle lui demande, nous nous reverrons? Il lui dit, il vaut mieux pas. Et il la quitte. Elle est effondrée, elle ne comprend rien. Elle trouve son père au salon. Son père lui dit,
il ne faut plus revoir ce jeune homme.
Elle lui demande, pourquoi père? Lui répond,
c'est comme ça. Dans la vie, des choses. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, d'enfreindre.
Elle est effondrée, elle ne comprend pas, mais dit à son père, je vous promets, père, de ne plus le revoir. Maxime, dans sa chambre, pleure. Il est effondré. Il aime sa sœur. Sa sœur, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Le lendemain, il revoit dans le parc rose. Il lui dit, il ne faut plus nous revoir. C'est interdit de nous aimer. Elle lui dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Il lui dit, c'est comme ça. Et lui demande, tu n'es pas un garçon bien? Il lui répond, non. Mais dans la vie, enfin, nous n'aurions dû jamais nous rencontrer. Et nous ne devons pas nous revoir. Et il demande pourquoi. Il lui répond, c'est comme ça. Adieu. Et il la laisse. Elle est désespérée comme lui. Il ne se voit plus. Son père lui dit, tu es un homme, je suis fier de toi. Maxime demande, et Rose? Son père lui dit, ça lui passera. De toute façon, c'est impossible. Si vous étiez mariés, que l'on sache tout, serait-elle la fin de notre famille, de toi, d'elle aussi, mis au bas de la société. Maxime lui dit, vous auriez dû y penser avant, tout ça c'est de votre faute. Mon père lui dit, ne me juge pas trop durement, plus tard tu comprendras. Maxime lui dit, mais j'ai déjà compris ce qu'il ne fallait pas faire. Et il quitte son père effondré. Il se dit que lui, ça ne lui arrivera jamais, ce genre de choses. Pour lui, l'amour, c'est fini. Ça l'a dégoûté, pas à cause de Rose, mais de son père. Il repense à David et se demande ce qu'il fait et si lui aussi est amoureux. Il ne sait pas pourquoi. Ça lui fait mal de se dire que peut-être il est amoureux. Pourtant, lui, il a été. Pauvre Maxime. Il est obligé, comme toujours, de s'enfoncer dans ses études. Les jours passent. Il ne revoit plus Rose. Le parc le rend mélancolique. Son frère Ferdinand, lui, a des ennuis. La pègre le recherche pour lui faire sa peau. Il a tué l'un des leurs. Son ami a été égorgé par un client qui est un de la pègre. Il est effondré par la mort de son ami. On lui a dit qu'elle avait été tuée par la pègre et que la pègre le tuera lui aussi. Malheureusement, comme il faisait partie de la pègre, on le recherche pour avoir sa peau. Il a peur, veut fuir. Mais avant de fuir, il tue celui qui a tué son ami. Il se cache dans les rues, les lieux lugubres du premier arrondissement. Bois, fume, tremble, vit dans des immeubles délabrés, petites pièces lugubres et sales. Sa famille ne sait pas ce qu'il est devenu. Sa mère demande à son mari,
n'a pas de nouvelles de Ferdinand. Que lui est peut-être-t-il arrivé?
Son mari lui dit, pourvu qu'il n'ait pas fait de bêtises. Ferdinand vit comme un clochard dans un taudis sous les toits d'un vieil immeuble. Il s'est laissé séduire par une vieille concierge, la Terrier, vieille, grosse, laide, sale. Pour qu'elle le nourrisse et le loge, il est obligé de faire avec elle. Ça le dégoûte. Mais comment faire? S'il ne le fait pas, il est à la rue sans rien. En loc, sale, toujours ivre, il fait 10 ans de plus, mais que les sables. Il fait la manche pour un peu de pain dans le quartier. Un jour qu'il fait la manche, il tombe sur Maxime qui ne le reconnaît pas. Ferdinand lui dit, tu reconnais plus ton frère? Maxime est surpris. Ferdinand lui demande, t'as pas une petite pièce? Maxime lui en donne et lui demande, que fais-tu? Où habites-tu? Ferdinand lui répond, dans une mansarde. C'est une concierge qui me loge et me nourrit. Tiens, Regarde-la passer. Maxime, dégoûté, voit une grosse femme, cheveux blancs, en désordre, le regard mauvais, habillée d'une vieille robe noire. Elle doit avoir dans les 70 ans. Maxime est dégoûté, gêné, honteux de voir quand sa famille est comme ça. En rentrant chez ses parents, il en parle à son père. Le père est furieux, il va voir son fils. Il réussit à trouver où il habite. Le trouve couché sur un grabat, dans une pièce pourrie. En entrant, il tombe sur la vieille qui se lève et s'habille. Le père est furieux, il dit à son fils. Un homme ne peut vivre comme ça. Tu me dégoûtes. Ferdinand ne lui dit rien. Ton père lui dit. Bien, je te ramène chez moi. Ferdinand est tout heureux, suit son père. Il fait prendre un bon bain, le mène à sa chambre et lui demande. Pourquoi tu as vécu comme ça? Ferdinand lui dit tout. Son père lui dit. Tu mériterais une bonne correction. Ton frère, lui au moins, se comporte normalement. Ferdinand devient tout rouge de rage et déteste son frère. Le père réfléchit et décide que Ferdinand reste chez eux pour éviter qu'il ne fasse trop de bêtises. Mais il sera très surveillé. Sa mère le console et lui dit « Tout ça, c'est pas de ta faute. Ton père est un monstre. » Et lui donne de l'argent. Ferdinand n'ose pas sortir. Parce qu'on le recherche. Les jours passent. Maxime pense souvent à Rose, mais fait se fait une raison. Il sait que c'est tabou. Son père ne lui en parle plus. Le temps passe. Maxime finit ses études brillamment. Son père le félicite et lui dit « Maintenant, il faut que tu travailles avec moi à la banque. » Maxime lui dit « J'accepte, père, mais n'aime pas ça. » Le père aussi décide c'est de faire travailler Ferdinand à la banque pour de menus travaux d'écriture. Ferdinand est furieux. Maxime s'ennuie à la banque, mais s'applique à son travail. Son père lui fait lire des demandes de prêt pour qu'il donne son opinion. Des fois, il le fait assister à des réunions d'actionnaires, des gens qui ne pensent qu'à s'enrichir. L'oncle vit toujours de la même façon. Va d'une femme à l'autre, il dit à Maxime, « Toi, tu devrais avoir une petite. » Mais ça ne marche pas avec lui. Mais avec Ferdinand, ils se comprennent mieux tous les deux. L'oncle et Ferdinand sortent ensemble pour voir des femmes. Ferdinand, oui, sort avec son oncle. Henri s'inquiète et dit que son oncle dévergonde son fils. Il le lui dit, ça me gêne que tu sortes avec mon fils. L'oncle crie et lui dit, tu veux en faire un prêtre? L'oncle n'a pas de maîtresse attitrée pour le moment. En vieillissant, il devient de plus en plus exigeant et cherche sa perle rare. Une fille pure, douce, belle, etc. Mais il n'en trouve pas. L'oncle dit à Ferdinand, je suis fait fier de cette vie, d'aller de fille en fille. La mère, en vieillissant, se pose des questions. Elle se demande si elle a été une bonne mère, surtout vis-à-vis de Maxime. Elle aime toujours autant Ferdinand, mais voit ses défauts. Elle n'a plus goût à rien et a peur de vieillir.
Son mari la voit mélancolique. Il lui demande ce qu'elle a. Elle lui répond « Je n'ai rien ». Il lui dit « Faut sortir, vivre. Avant, tu étais plus gai et agréable à vivre. Pourquoi ce changement ? Qu'est-ce que tu as changé depuis plusieurs années ? Tu es devenu maussade, irritable. Je ne trouve pas la joie autour de toi. » Je me demande pourquoi. Elle lui répond,
tu sais bien.
Il lui dit énervé, tu ne vas pas tomber malade pour une histoire vieille de 30 ans. Tu as gâché ta vie durant 30 ans. Tu ne vas pas gâcher le reste de ta vie.
Elle lui dit, c'est ta faute. Tu m'as ouvert les yeux sur toi.
Il lui dit, je ne suis pas un monstre. J'ai fauté. Ça peut arriver à tout le monde, même à toi. Elle rougit. Il lui dit, tu t'es gâché la vie durant 30 ans. Tu vas pas la gâcher le restant de ta vie. La mère de Maxime le voit et lui demande,
et j'étais une bonne mère pour toi.
Il lui répond,
oui, ne fais pas de soucis.
Le frère Ferdinand s'ennuie. Il est aussi jaloux de son frère qu'il voit toujours près de son père et parler à faire alors que lui fait le gratte-papier. Il se dit, pourquoi est-ce que mon père ne m'a pas donné une place de responsabilité ? Voit son oncle qui sympathise plus. Ils critiquent le père tous les deux. L'oncle l'invite à sortir avec lui. L'oncle cherche à dépraver son neveu. L'oncle cherche à dépraver son neveu pour se venger de son frère. Oui, pour se venger de son frère. Le père a des ennuis. Rose a tenté de se suicider en prenant de la mort au rat. Mais elle en a trop pris pour la faire mourir. C'est Henri qui l'a retrouvée chez elle, inanimée, et l'a amenée à l'hôpital où elle a été sauvée. Ramenée chez elle, il lui dit, tu vas partir en Suisse pour te remettre.
Elle lui dit, non, je préfère pas.
Il lui dit, ça te fera du bien.
Elle lui dit, bien, j'accepte.
Le père dit à sa famille qu'il part pour un voyage d'affaires et ils partent en train. En Suisse, dans une maison de repos, dit au directeur un homme grand, fort, cheveux châtains, à lunettes, à l'air très distingué.
La maison de repos se trouve au pied de montagnes enneigées et ressemble à un hôtel palace. Elle aura une chambre comme dans un hôtel. Donc, Henri dit au directeur,
surveillez-la bien. Elle est suicidaire. Avant de partir, son père lui demande, pourquoi tu fais ça?
Elle lui répond, parce que j'aime toujours Maxime.
Il lui dit, faut oublier, tu n'as pas le droit, tu es de sa demi-sœur.
Elle lui dit, mais personne ne le saura.
Il lui dit, peut-être, mais si on le sait, ce sera le déshonneur pour nous tous. Et puis même si personne ne le sait, toi, moi, le savons, c'est un crime.
Elle lui dit, peut-être à notre époque, mais il faut un temps où le frère et la sœur pouvaient se marier, et même le devaient.
Il lui demande, qui t'a dit ces sornettes?
Elle lui dit, je l'ai lu dans l'histoire des pharaons.
Mon père lui dit, des sauvages qui ne connaissaient pas la loi ni la bonne religion. Maintenant, on sait ce qui est bon et mauvais. Il faut se plier à ça. On est devenu civilisé. L'époque antique faisait des choses mal parce qu'ils ne le savaient pas et maintenant on le sait. Savoir, donner un nom à la chose, se dire que c'est un crime de le faire, celui qui pêche sans le savoir peut être perdu, celui qui pêche en sachant est un criminel. Et puis, s'ils avaient eu des enfants, ce genre d'union crée des enfants mal formés, parce que vous avez le même sang. Il faut que tu trouves un autre jeune homme. Je comprends qu'on puisse avoir de l'affection, de l'amour même pour mon fils. C'est un garçon charmant, intelligent, sérieux, beau garçon. Mais il n'est pas le seul sur Terre à avoir ses qualités. Si tu veux, je te présenterai de bons et braves jeunes gens. Moi aussi je t'aime et veux ton bonheur. Et puis tu es jeune, tu as le temps de te marier. Profite de la chance d'être jeune et libre. Une fois marié, tu ne le seras plus. L'amour passe, tu sais. Mais que cela te fasse rater ta vie, là, c'est autre chose.
Elle lui dit, merci mon père, mais c'est de votre faute. Ça fait des gens malheureux parce que vous avez péché avec ma mère, même en l'aimant, alors que vous n'aviez pas le droit, parce que vous étiez mariés. Il lui dit, cela prouve que les choses qu'on a fait d'une passion illicite apportent le malheur et le déshonneur. Elle demande, vous regrettiez d'avoir aimé ma mère?
Il lui dit, non, mais je paye bien cher cette union illicite en te voyant malheureuse. Promets-moi d'être heureuse.
Elle lui dit, je vous le promets, mais sans Maxime.
Il lui dit, Maxime est une image, une belle image de 20 ans. Un jour, tu le croisas dans la rue et tu ne le reconnaîtras plus. L'amour est une maladie qui guérit d'elle-même.
Elle lui demande, vous n'aimez plus ma mère?
Il lui dit, mais d'une façon sage.
Elle lui dit, vous aviez d'autres maîtresses?
Il lui répond, non, je n'aime que toi et Maxime. Soyez frères et sœurs.
Et le père la quitte. Elle fait de longues promenades et aime toujours Maxime. Les jeunes gens essayent de lui parler et elle se dérobe petit à petit. Une grande mélancolie lui vient, une mélancolie comme une veuve. Elle garde en elle son amour perdu et en fait une sorte de religion. Elle se dit qu'elle a aimé un être cher, etc.
est l'idolâtre. Mais sans s'en rendre compte, le véritable Maxime est remplacé par une idole. C'est devenu une religion en elle. Ça lui suffit. Elle se dit « J'aime Maxime ». Le père retrouve sa femme dépressive. Des amis viennent la voir pour lui remonter le moral. Maxime travaille bien, mais le corps n'y est pas. Il pense à David, qui pour lui représente la liberté, l'aventure. Il se demande ce qu'il est devenu. Il aimerait le rechercher, mais comment faire ? Les jeunes filles, même les femmes, cherchent à le séduire. Il se dérobe. Elles disent qu'il est sauvage. D'autres, plus efficaces, pensent qu'il a une maîtresse cachée. Son père s'inquiète et se dit qu'il doit toujours penser à sa demi-sœur. Pourvu qu'il ne fasse pas une bêtise. Il essaye de lui parler. Il lui demande « À quoi penses-tu » Maxime lui dit « Je pense à ce que nous avons fait, moi et David. » Son père lui dit « C'est vieux tout ça. Vous étiez jeune. Il faut rentrer dans le monde des adultes, voir du monde, des filles. » Maxime lui dit « Pour moi, pourquoi faire ? Pour faire comme toi ?» Père Vixier lui dit « Je parle pas de ça. Tu es célibataire. C'est normal que tu t'amuses un peu. » Maxime lui dit « À Lyon, il n'y a rien. » Mon père lui dit « Eh bien, fais un séjour à Paris. » Il accepte pas pour chercher des filles, mais pour se changer les idées. Il se prépare et dit au revoir à sa mère. Son frère est jaloux. Il prend le train. Hôtel, place de l'Étoile, visite Paris, voit des spectacles et lui se dit que Paris est vraiment une grande et belle ville. Va sur le Payenne pour un concert. Et restaurant Moulin Rouge.
demain, je vous épouse.
Vous croyez qu'il faut faire une fois?
Peut-être un commencement. Mari d'impératrice, ça me posera en bourse.
Ah.
Permettez-moi de vous présenter mon épouse.
C'est la comtesse de Perville. Elle est grande, maigre,
toujours plus belle,
distinguée, habillée de robe blonde Paris.
Notre Nadina la plus belle.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Dom. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.